Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Écologie des Femmes Radio, Mission Verte. Chaque jeudi de 10h à 10h30, je suis Laurence. Vous pouvez nous suivre sur le 98.0 de la bande FM ou sur idfm98.fr. Alors, au programme de ce numéro, un éco-aventurier. Il s'appelle Théo Aran et il nous livre dans un premier tome son aventure à la rencontre de vie alternative. Il a fait plus de 6000 km en stop. Le titre, Écolieu, la fabrique de l'avenir. Et c'est paru aux éditions Terre Vivante. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à aller sur le site terrevivante.org.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Et nous retrouvons notre invité Théo Aran, bonjour.
Bonjour Laurence.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler d'un magnifique ouvrage qui s'appelle Écolieu, la fabrique de l'avenir. C'est paru aux éditions Terre Vivante. J'invite nos amis auditeurs à aller sur le site, notamment des éditions terrevivante.org pour en savoir plus et aller ensuite en librairie se procurer ce très bel ouvrage. Mais d'abord un petit mot sur vous, Théo Arang. Vous êtes ce qu'on appelle un éco-aventurier.
Oui, on peut me dénommer comme ça. C'est-à-dire que je pars de temps en temps en vacances, comme tout le monde, mais j'effectue ces vacances un petit peu différemment. C'est-à-dire que j'utilise un moyen de transport différent, le vélo, l'autostop ou le canoë-stop, ça m'est arrivé aussi, par exemple le scooter-stop, pour vivre donc des micro-aventures en montagne, sur des grandes randonnées, ou tout simplement en faisant du woofing. Donc l'été, je pars dans des fermes biologiques pour apprendre des pratiques et ensuite, à côté, avoir le gîte et le couvert, comme du troc.
Et on peut le rappeler votre âge peut-être, parce que vous êtes très jeune.
Oui. J'ai 24 ans actuellement et ce voyage dont est issu le livre justement a été donc moi je suis parti en voyage quand j'avais 21 ans.
Alors vous étiez encore étudiant?
Oui, j'ai été très intéressé depuis le lycée par rapport aux enjeux écologiques et sociaux. Donc j'ai décidé d'y consacrer mes études dans l'environnement. Donc une prépa d'ingénieur dans l'environnement, puis une licence qui je pensais allait être un peu moins théorique et plus pratique. Finalement, la pratique me manquait toujours. Alors avant d'entamer un master qui aurait été dans la même optique des études précédentes, je me suis dit, je vais emprunter une voie différente. Et donc j'ai décidé de prendre une année de césure pour vraiment aller rencontrer ceux qui vivent de façon différente, afin de justement d'adapter mon mode de vie et de voir ce qui peut fonctionner.
Et vous avez donc eu cette idée assez incroyable, parce que on imagine quand on est jeune, on a envie de parcourir le monde. Vous, ça a été une démarche vraiment d'aller voir ce qui se fait en France. Et avec beaucoup d'originalité, vous avez fait ce qu'on appelle le free colo-tour, hein, vous l'expliquez dans votre préambule, pour la France, aussi pour dire que c'est un peu sans argent, parce que vous avez un budget très très serré, de écolo, parce que là encore, vous allez découvrir ce qui se fait de manière alternative dans notre pays, et un vrai tour de France. Et pour cela, vous avez été démarcher ce qui se faisait sur notre territoire.
Oui, exactement. Donc, l'idée, c'était de sortir de ma zone de confort. Parce que je pense que si on veut apprendre, il faut sortir de sa zone de confort, de se confronter aux opinions diverses et variées. Alors, je me suis dit, quoi de mieux que de partir en stop et sans argent. Là, je me retrouve vraiment démuni de tout ce que j'ai pu construire jusqu'ici. Et en plus de ça, ça me permet de rencontrer énormément de personnes aux opinions diversifiées, le stop et les personnes qui s'arrêtent. On ne sait pas vraiment qui ils sont, mais ça se passe toujours bien et on apprend toujours énormément de choses. Et ça me permet justement de parler des enjeux actuels, de voir si eux, ils sont confrontés ou pas, s'ils sont intéressés. Et derrière, en comprenant comment perçoivent les choses les gens, derrière, on peut prendre des décisions justes. Et au-delà de ça, le fait de rencontrer toutes ces initiatives, pour moi, c'était essentiel. Aujourd'hui, je sais que je veux agir dans le domaine de l'écologie et de la solidarité. Je le savais pendant mes études. Mais pour autant, quoi faire exactement, c'est toute la question. Et au lieu d'inventer quelque chose de nouveau, autant aller voir ce qui se fait ailleurs, au lieu de réinventer la roue. Donc, y a énormément de choses qui se font sur le territoire. Il y a des milliers d'initiatives. Et en fait, ça me demande juste qu'à être découvert, à être partagé aussi, pour leur produire au maximum et développer un mode de société plus durable.
Et lorsque vous avez reçu des réponses positives pour les visites de ces écolieux, comment s'est passée l'organisation? Comment s'est passée votre arrivée sur place?
Quand j'arrive dans chacune des destinations, en effet, c'est la découverte. Moi, à chaque semaine ou deux semaines, puisque je restais une semaine à deux dans chacun des lieux, j'étais à la fois parfois déçu, parfois heureux de quitter chacun des lieux, parce que je quitte un lieu avec qui j'ai commencé à nouer des liens, mais de l'autre côté, je sais que je vais découvrir quelque chose de génial encore derrière. Et ça fait mon moi un certain vent de liberté de repartir. Et ces lieux, en fait, ils sont tous différents des uns et des autres. Ils expérimentent juste plein de choses diversifiées selon différentes thématiques. Il y en a, ils vont plus s'orienter vers l'agroécologie, d'autres l'éco-construction, d'autres le militantisme. D'autres vont vraiment vouloir développer ces lieux de vie en collectif avec une certaine gouvernance partagée pour vivre ensemble avec plus de démocratie. Donc ouais, c'est comme un peu une chasse au trésor, quoi.
Alors dans l'ouvrage, on retrouve des éléments pour celles et ceux qui sont un peu novices, hein. Par exemple, l'économie circulaire, vous rappelez qu'il y a question de production, distribution, consommation, récupération, compostage, et tout ça est très dans une flèche circulaire où évidemment tout ça tourne, alors que l'économie linéaire, bah ça va directement à la poubelle. Vous donnez des informations également sur comment prendre soin de la terre, selon donc là où vous arrivez, hein, dans quel type de ferme ou d'exploitation dans laquelle vous arrivez. Notamment, vous rappelez qu'est-ce que la permaculture à travers les échanges que vous avez avec celles et ceux qui vous reçoivent. Et puis, le choix, par exemple, j'ai beaucoup aimé la construction d'une maison en terre paille. Alors, moi, j'avais en tête la fameuse comptine des trois petits cochons. Or, ces maisons ont existé, existent toujours, et peut-être même ça sera l'avenir. Et là, vous nous dites, hein, comment ça marche.
En fait, en permaculture, il y a une des thématiques qui s'oriente vers l'habitat. Et c'est-à-dire que on va éco-concevoir l'habitat avec des matériaux qui sont naturels et en plus de ça, peu onéreux. On utilise de la paille, on utilise de la terre, on utilise du bois, parfois des matières minérales comme de la pierre ou de la chaux. Et on peut tout à fait construire des bâtiments et qui en plus sont très performants. Faut oublier qu'une botte de paille, c'est quand même assez large. Compresser suffisamment, ça permet d'avoir une bonne isolation thermique et phonique. Et en plus de ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles ont tendance à moins prendre feu que d'autres maisons traditionnelles, puisque la paille est quand même tout à fait bien compactée et le feu a du mal à se propager. Et dans la seconde partie de mon tour de France, je me suis donc rendu dans l'éco-hameau de Versailles. Et là-bas, c'était vraiment un éco-hameau avec une dizaine de maisons en terre paille. Et j'ai trouvé ça génial parce que justement, ça montre que ces bâtiments, ces maisons qui sont écologiques, sont tout à fait une alternative sociétale qui est possible. C'est-à-dire que ce petit éco-hameau, vu comment les maisons étaient agencées, ça me faisait penser à un lotissement qu'on peut retrouver en campagne, qu'on peut retrouver en ville. Donc, il faut juste simplement se dire que oui, un autre modèle de maison et donc derrière de société est possible. Après, il faut juste que les citoyens en aient conscience pour avoir la volonté de le faire, mais aussi que les entreprises proposent ce genre de service, quoi.
On va faire une petite pause. Vous êtes toujours sur les ondes d'IDFM Radio dans Mission Verte. On se retrouve juste après ça avec notre invité Théo Aran qui nous parle de son ouvrage Écolieu, la fabrique de l'avenir.
Everything I want is everything you got. So not before you come over, relax. What before you run? Your eyes on my gun, dun, dun, dun. I need you to come closer. 4 years of watching us, giving me such a rush. When I'm crazy and I'm gone, love, give me what I want. Give me what I want.
Pull up up in a place where you see me, see me. Cause when me want a way, you got your better, gimme, gimme. Me rock your body, who else I go rock your body for me? Come over here, so make me push your body to the limit. Let me know, give me what I need. I'll follow, I'll let you lead. Give me love, don't need no money. So pull me closer, actually.
Voyeurs are watching us, giving me such a rush.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Vous êtes toujours à l'écoute d'IDFM Radio, Mission Verte. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 en compagnie d'un invité, Théo Aran, qui nous parle depuis le début de l'émission de son ouvrage Écolieu, la fabrique de l'avenir, que vous pouvez retrouver aux éditions Terre Vivante. Hugo Aran, vous vous rappelez les besoins avec la fameuse pyramide de Maslow? Puis à travers vos rencontres de militants, notamment anti-nucléaires, on comprend la difficulté entre cette fin du mois, cette fin du monde et la question des énergies.
Évidemment que l'énergie, elle est importante dans nos sociétés, même si on essaie de diminuer, d'utiliser des énergies vertes, on en utilise toujours plus. Et c'est ça qui est un peu perturbant. Donc moi, vraiment, dans cet ouvrage, on parle... Donc, après la pyramide de Maslow, vous avez parlé donc de l'écologique, c'était pas facile pour tous, etc. Mais tous ceux que je suis allé rencontrer, finalement, qui avaient choisi une vie dans l'autonomie, n'avaient pas de problème financier. Pas parce que il pouvait s'agir parfois de 1000 euros, pas parce que ils avaient des aides ou quoi que ce soit, parce qu'ils avaient réellement envie de vivre différemment. Et lorsqu'on choisit de vivre différemment, on n'a pas du tout les mêmes problématiques. Lorsqu'on choisit une vie qui est plus autonome, eh bien, en fait, on peut se permettre de moins travailler, par exemple, si c'est notre choix, de travailler tout autant, mais de travailler plus sur place, sur notre lieu d'habitation, de produire sa nourriture, son énergie, grâce à de la low-tech, de la basse technologie. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait produire de l'eau chaude juste avec le soleil, sans pour autant utiliser de métaux rares ou quoi que ce soit. Donc l'écologie, via l'autonomie notamment, permet justement de sortir de cette précarité pour moi. Et c'est ce que aujourd'hui on a du mal dans notre société actuelle, c'est que c'est plutôt l'inverse. Mais cette opinion peut complètement être bouleversée si justement on choisit totalement une vie différente. Après, d'un point de vue du nucléaire ou quoi que ce soit, évidemment l'énergie c'est une grande question sociale. Mais pour autant, pour moi, ce qui est là où il faut vraiment s'interroger, c'est sur notre consommation, qu'elle soit personnelle ou collective ou grande vie des entreprises, étatiques ou autres, à tous les niveaux. C'est-à-dire que est-ce que vraiment on a besoin de consommer cette énergie? Est-ce que les actes qui sont derrière, c'est pourquoi on utilise, sont nécessaires? Et là, c'est toute cette notion de sobriété. Et j'enchaîne dans le livre en parlant évidemment de Pierre Rabhi, avec la sobriété heureuse, qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir énormément d'objets matériels, mais que justement, on peut retrouver bien plus de confort dans le partage avec les autres, en soi, en se connaissant plus. Et tout simplement en ayant plus de temps. Si on vit dans la sobriété, on a moins de choses, on a plus de temps pour nous-mêmes. Et c'est ça, avant tout, ce qu'il faut mettre en avant, je pense. Vraiment, cette notion de sobriété.
Et on voit notamment dans ce fameux terme écolieu, vous le rappelez d'ailleurs à la fin de l'ouvrage, l'humain est vraiment au centre.
Alors oui, l'humain est au centre, mais pas que. C'est le vivant d'un point de vue... D'un point de vue général, Après,
mais je veux dire, excusez-moi, je voulais dire, pardon, l'humain est au centre dans le sens les relations humaines. C'est-à-dire, on se retrouve, on a ce rapport, on se recentre un peu plus sur nos besoins primaires, on se remet en connexion avec la nature, on est moins sur l'artificiel, justement, sur la surconsommation, on revient à l'essence même, à l'essentiel.
Oui, exactement, c'est ce mot-là, l'essentiel. Bah, aujourd'hui, dans la société actuelle où on va vivre, une société qui est tout de même assez frénétique, hein, tout va vite. Pour certains, on parle souvent du maison, boulot, dodo. Donc il faut faire des choix. Après, c'est vrai en effet que c'est assez compliqué pour certains. On se retrouve dans une vie où les choix précédents nous freinent un petit peu pour changer de chemin. Par exemple, certains se retrouvent en famille. Comme on a des enfants, on peut faire moins de choses, on peut moins voyager d'une certaine façon. D'autres, on fait des prêts pour avoir une maison, et donc il faut les rembourser. Et donc, on va dire qu'on peut se retrouver dans une certaine impasse. Après, pour autant, tout n'est pas bloqué, et on peut toujours changer de chemin. Suffit de réfléchir sur, que ce soit le court ou le long terme, selon notre situation, mais on peut, en effet, basculer. C'est ça, le mot basculer. D'ailleurs, on a certaines personnes qui ont choisi de changer de vie, les basculeurs. Et on peut le faire. Et justement, on a tout intérêt parce que ce côté-là nous permet de se retrouver, nous, et avec d'autres personnes, passer plus de bon temps et vraiment aller à l'essentiel. Aujourd'hui, même si on travaille énormément, etc., dans cette société, on peut ne pas se sentir bien et pour autant on travaille, on devrait avoir l'opportunité de s'offrir ce qu'on peut, mais c'est toujours difficile d'avoir accès à une alimentation qui est bio ou quoi que ce soit pour certains. Moi aujourd'hui, je vis en campagne et j'ai un potager, mais que je gère en agroécologie avec des semences paysannes, avec sur les principes de la permaculture, et rien que cet été j'ai produit une tonne de légumes. Rien en ne comptant pas les fruits à côté. Donc, sur des petits espaces, qui est de mon côté 500 mètres carrés, qui n'est pas énorme, on peut justement travailler la terre sans nourrir. Et n'est-ce pas ça l'essentiel finalement?
Alors, on voit dans votre ouvrage que vous n'avez pas tout fait. La preuve, vous nous dites à la fin que la suite de vos aventures vont arriver dans un second tome d'Écolieu, La fabrique de l'avenir.
Totalement. Donc, l'aventure a duré un an, pendant lequel j'ai parcouru 6300 kilomètres. J'ai rencontré 70 alternatives. J'ai aussi rencontré 600 personnes avec des pensées diversifiées. Ça fait réfléchir. J'ai décidé donc d'écrire cette aventure en deux tomes. Pourquoi? Parce que je ne suis pas du monde du livre, de l'édition, et donc c'était pas une habitude pour moi d'écrire un livre. C'était d'ailleurs un réel défi. Et scinder cette aventure en deux en termes d'écriture, ça me donnait plus de confiance en soi. Et déjà que ce premier tome fait 240 pages à peu près, et bien si j'aurais dû tout écrire, ça aurait donné une bible de 600 pages. Je sais que moi c'est assez décourageant lorsque je vois ça, mais je me suis dit que pour le lecteur aussi, c'est pertinent. On peut toucher plus de monde, et c'est ce qui est intéressant et c'est ce que je voulais justement. Donc là, l'écriture du second tome est en cours et pourrait, je ne sais pas quand, sortir. Ça reste à définir. Pour l'instant, ce premier tome vient de sortir, donc il y a le temps.
Qu'on rappelle, hein, vous donnez plein de conseils sur l'écologie et que l'on retrouve, qu'on découvre grâce à vos rencontres dans plus de 6000 kilomètres en stop en France. C'est un premier tome qui vient de paraître aux éditions Terre Vivante et le second donc qui est en cours d'écriture. On aura évidemment le loisir d'en reparler à sa sortie. Et puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à votre tour d'avoir un écolieu à faire visiter, à accueillir du monde?
C'est en cours, en effet. J'ai un voyage au Japon en autostop qui est prévu avant.
En autostop compter... de France?
Exactement, oui.
D'accord.
En duo, cette fois. C'est prévu d'aller là-bas. Il nous donne un mois et demi, deux ans d'aventure, sachant qu'on veut rester là-bas pendant un an. Pour avoir un permis vacances-travail et puis passer du temps là-bas, vraiment découvrir le pays. Mais on a déjà un collectif qui est en cours de construction. On se rencontre, on se voit, etc. Et c'est ce que j'ai vraiment vu dans les collectifs auparavant. Ce qui fonctionne, c'est lorsque les personnes sont vraiment soudées les unes entre elles. Parfois, les gens viennent, repartent, etc. Mais s'il y a vraiment quelque chose de fort qui lie les habitants auparavant, c'est une carte majeure. Après, il y a des outils qui existent, comme la communication non violente et autres. Mais c'est un point très important, donc on commence dès maintenant. Et donc, dans 2 ans, on cherchera un lieu où s'installer.
Et vous avez déjà une idée de la région ? Vous êtes vous-même de quel coin de France ?
Là, on est majoritairement plus de l'ouest de la France.
D'accord.
Ce qu'on aimerait, c'est plus s'installer sur la côte ouest. Mais la côte ouest, c'est très large. Mmh. Ça va être de la Bretagne jusqu'au Pays Basque. Tout va dépendre aussi des volontés de chacun, on va en discuter, mais aussi du coup de cœur, c'est-à-dire que le coup de cœur peut très bien tomber partout et ça dépendrait vraiment du lieu qui sera là et qui s'imposera à nous.
On peut vous suivre sur les réseaux sociaux dans vos démarches pour ce voyage?
J'ai un compte Instagram, oui, donc c'est Théo Green Trip, comme voyage vert. Et donc sur Théo Green Trip, on peut suivre toutes mes micro-aventures où je parle, où je partage. Donc on peut se retrouver là-bas.
Eh bien c'est formidable. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir. Au revoir.
Évidemment je te regarde. Évidemment je me sens seule. Il y a des jours où je pars en larmes. Et à quoi bon t'aimer avant l'heure? Mais y a des jours où je m'envole et des jours où pour toi je crois frôler le sol et je n'ai pas de réponse à ce jeu-là. Oui, je demande à mon cœur s'il doit se battre encore, si toi tu ne m'aimes pas tant que ça. Pourquoi, pourquoi nos regards se touchent et dans mes yeux tu vois pas que c'est louche? Pourquoi, pourquoi rien ne bouge? Est-ce que ça t'a porté? Est-ce que tout ça te touche? Pourquoi ton cœur n'est pas rouge? Moi, moi je veux ta bouche. Pourquoi? Ah, 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 ah. Évidemment tu me regardes quand tous nos morceaux se recollent. Y'a des jours où on reste en phase et où tu m'embrasses comme une idole. Mais y'a des jours où je deviens folle et des jours où je crois être au dernier sous-sol. Et je n'ai pas de réponse à ce jeu-là. Oui, je demande à mon cœur s'il doit se battre encore, si toi tu ne m'aimes pas tant que ça. Pourquoi, pourquoi nos regards se touchent et dans mes yeux tu vois pas que c'est louche? Pourquoi, pourquoi rien ne bouge? Est-ce que ça t'a porté? Est-ce que tout ça te touche? Pourquoi ton cœur n'est pas rouge? Moi, moi je veux ta bouche. Pourquoi? Ah, 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 ah. Je demande à mon cœur s'il doit se battre encore, si toi tu ne m'aimes pas tant que ça.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Vous êtes toujours à l'écoute d'IDFM Radio dans l'émission Mission Verte. Avant de se quitter, je voulais vous rappeler que jusqu'au 29 septembre, c'est la fête des hérissons. Ces petits visiteurs de nos jardins sont mis à l'honneur en France. Une bonne idée pour sensibiliser et éduquer. Alors, c'est organisé par la Fédération France Nature Environnement. Cette fête du hérisson propose d'aller à la découverte de cet amateur de limaces afin de mieux l'accueillir et le protéger. L'occasion de montrer que chacun peut agir pour préserver la biodiversité la plus ordinaire, celle de son propre jardin. Ainsi, les associations de protection de la nature et des enseignes partenaires proposent des animations gratuites au programme, notamment des sorties nature, des ateliers comme la fabrication d'un abri. Il y a aussi des conférences, si vous voulez en savoir plus, hérisson.fne25.fr. Notez d'ailleurs que depuis 2020, plus de 11 000 participants ont contribué ainsi à l'évaluation des populations et forcément à l'amélioration des connaissances de cette espèce protégée par la loi. Autre rendez-vous, c'est l'opération Nettoyons la nature jusqu'au 29. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et merci encore pour votre fidélité sur les ondes d'IDFM Radio. Au revoir.